Bonjour et bienvenue dans la Terre à boire. Nous nous retrouvons une fois de plus au studio Module. Il fait un petit peu chaud, on a ouvert la fenêtre. Vous inquiétez pas si vous entendez une ou deux voitures passer, c'est pas grave. L'important c'est qu'on est là. Je suis là avec Valérie Ouvertus. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Et avec Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et on est ravis de se retrouver aujourd'hui parce qu'on a un invité qui va nous inviter, nous emmener dans un voyage qu'on avait prévu de faire depuis bien longtemps. On cherchait un peu l'interlocuteur qui nous permettrait de l'entamer, un voyage dont on se dit déjà qu'il y aura pas mal de choses à découvrir. Du coup, d'emblée, on s'est dit, on va faire deux émissions. L'invité, c'est Gaëtan Turner. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Et le sujet, le voyage, c'est en destination d'un pays, le tien.
Australie.
L'Australie. Voilà. On va parler des vins australiens, alors des vins, de la façon dont on importe les vins ici, des cépages qui sont dominants là-bas, la structure du marché, des consommateurs australiens. Je ne sais pas si on va aborder tous ces thèmes, je suis sûr qu'on en aura d'autres. Il y a même une histoire de bouchons de capsules. C'est un teaser. Voilà, donc on est très content d'aborder ce territoire qui est pas très connu. Je me tourne vers toi, Valérie, caviste. On ne te demande pas tous les jours un vin australien. Enfin, en France, c'est quand même... Déjà, on sait qu'il y a un prisme... franco-français vers les vins français, à la limite c'est de bonne guerre, mais quand on se tourne vers des vins étrangers, en France on pense plutôt les vins italiens, les vins espagnols, nos plus proches voisins évidemment. Déjà les vins allemands, on les considère d'un peu trop loin, on s'y intéresse peu. Mais alors, ce qu'on appelle le nouveau monde, dans cette expression joliment surannée de vins du nouveau monde, voilà, il y a une concurrence entre la Californie, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine et l'Australie. Quel est ton regard, toi, ta connaissance comme ça de caviste sur les vins australiens, Valérie ? C'est pas une question piège, hein. C'est
non,
mais au quotidien.
Au quotidien, là déjà, je n'en vends pas, c'est vrai. On m'en demande peut-être, 5 fois dans l'année.
Quand même, ça arrive que quelqu'un pousse la porte en disant « Est-ce que vous avez un vin australien ?» Quelqu'un qui revient de vacances, peut-être.
Oui, exactement. Mais en vrai, c'est vrai qu'on nous demande davantage de vins européens, surtout l'Italie, et puis beaucoup le... l'Amérique du Sud. Voilà, beaucoup l'Amérique du Sud.
Patrice, les vins australiens, ça t'évoquait quoi avant de bosser sur le boulot, sur le sujet, parce que là, alors, tu nous as préparé.
Déjà, moi j'aime bien le vin, mais je crois pas avoir bu plus d'un ou deux vins australiens. Oh. Et encore, je sais pas, non mais on est là pour changer les choses.
Absolument.
Mais c'est vrai que, bon, déjà la première chose, c'est en tant que consommateur de vin, pas addictif, mais bon, j'en bois quand même pas mal. C'est vrai que j'ai pas dans ma cave de vin australien. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une erreur que je vais corriger. Mais même les gens qui boivent pas mal de vin et qui apprécient le vin, enfin, ne boivent peu de vin australien. J'ai des vins espagnols, j'ai des vins italiens dans ma cave, mais j'ai pas de vin australien. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est un monde à découvrir gustativement, en tout cas pour moi.
Gaëtan,
bon, j'ai du boulot alors.
Bah oui, c'est ça, tu vas nous aider. Est-ce qu'on s'arrête d'abord un tout petit peu sur toi, ton parcours, qu'est-ce qui aujourd'hui tu es importateur de ces vins australiens, mais d'autres territoires. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le vin déjà peut-être?
Alors, quand j'ai fait mes études à Melbourne, j'ai pris un boulot comme serveur et c'était un équivalent de Potel et Chabot. Donc, on avait l'occasion de travailler dans des très jolis endroits et où le vin était mis en avant. J'avais la chance d'habiter à côté de... Bon, je viens de Melbourne, donc j'avais la chance d'être pas loin de Yarra Valley, donc qui est la première région viticole à proximité de Melbourne. Et j'ai pu découvrir le vin à travers le service, à travers les banquets qui étaient organisés, à travers des dîners, etc. J'ai continué le service en faisant une année sabbatique en Angleterre, ce qui m'a permis aussi de continuer à travailler avec le vin. Et après ça, j'ai continué l'année sabbatique en France, dans l'Anjou. Près du côté de ma mère.
Oui, parce qu'on va le préciser, ce français parfait, il vient aussi du fait que ta maman est française et ton père australien.
Tout à fait. Et donc, j'étais dans la région d'Anjou et j'ai pu travailler et faire les vendanges dans le coteau des Léons en 97. Donc, très grand millésime pour eux. Et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant. Je voulais faire science à l'origine pour faire médecine. Et très vite, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis parti dans science pour faire tout ce qui était vin, lié vin. Donc biochimie, micro, etc. Et je me suis dit, OK, le milieu du vin, ça a l'air super intéressant. Est-ce que j'ai envie de faire la production? Je ne sais pas. J'ai rencontré différents professeurs d'œnologie. Et ça ne me bottait pas plus que ça. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose dans ce milieu. Et 2 ans plus tard, j'avais terminé mes études, je suis revenu en France, j'étais à Paris, et je vois une bouteille de vin australien, donc Penfolds, chez un caviste. Donc là, on est en 2000. Et c'était le déclic, et je me suis dit, tiens, c'est ça ce que je vais faire. Et donc j'ai appelé l'ambassade d'Australie, j'ai récupéré la liste d'importateurs à l'époque. J'ai les ai appelés une par une et il y en avait un qui était à Paris, dans le deuxième. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Il avait un restaurant à l'époque qui s'appelait Oulumulu, qui était à côté de Bastille, et où il faisait du kangourou et il faisait...
un restaurant de vraiment, cuisine australienne.
Tout à fait. Donc, avec des vins.
Crocodile Dundee.
Absolument.
Et, à Bastille.
Et bon, malheureusement, ce restaurant n'existe plus, mais c'était un bon tremplin pour moi de connaître le milieu, de connaître les vins qui étaient ici. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant un an et demi. Je suis parti faire des études à Suze-la-Rousse.
Comme Laurent Delceau, qu'on salue, qui n'est pas là aujourd'hui, qui ne peut pas être là, il le regrette. Suze-la-Rousse, tout le monde est passé par Suze-la-Rousse, l'université du vin.
Ah ben disons que les plus grands sont passés par Suze-la-Rousse. non, Suze, c'était une expérience formidable, c'était une expérience de vraie découverte sur le milieu du vin. J'avais travaillé en service, j'avais travaillé en vendange, et là d'apprendre toutes les différentes cépages, d'apprendre la viticulture, d'apprendre réellement qu'est-ce que c'était le vin, c'était formidable et dans un cadre incroyable. Donc j'ai fait ça, je suis retourné dans la boîte et je leur ai dit écoute, c'est très bien de vendre des vins australiens, parce que c'était une boîte qui vendait des vins australiens, mais ils vendaient aussi des produits pour les bars anglais, donc des chips, des cacahuètes, des bacon, saucisses, baked beans, voilà, c'était pas que du vin. Et je leur ai dit, écoute, si on veut vraiment développer la partie vin, je pense que ça serait malin de peut-être offrir des vins d'autres pays. Et à ce moment-là, il y avait un garçon qui démarrait chez LVMH, donc chez Chandon, et qui, parce qu'à l'époque, on avait un domaine qui était à Greenpoint de Yarra Valley, et donc qui faisait partie de domaine Chandon Australie. Et bref, le gars, il m'a dit, j'aimerais bien te rencontrer, donc on se rencontre, et il me dit, j'ai un domaine en Argentine que j'ai besoin de faire distribuer en France. Ah bon, je ne connais rien sur l'Argentine. T'inquiète pas, ça va très bien se passer. Donc, on a commencé avec ça. Et il se trouve que c'était un petit groupe qui s'appelle LVMH, qui avait quelques salariés.
Toute petite boutique.
Oui. Et il y avait des petites ventes au personnel. Donc, ça a permis de d'écouler un petit peu des stocks, mais aussi de commencer à connaître l'Argentine. Et petit à petit, avec d'autres connaissances, ça a permis de rajouter un Chilien, un Sud-Africain. Et petit à petit, on avait un tout petit gamme. Et donc, de l'Australie à cette petite gamme de vins de l'hémisphère sud est né le nom Southwold Wines. Et 2-3 ans plus tard, j'ai pris mon envol. Donc ça, c'était en 2006. Et depuis, je n'ai pas arrêté de mettre en avant les grandes qualités des vins d'ailleurs. Des vins de l'hémisphère sud, des vins de Californie, aujourd'hui un petit peu de vins d'Europe. Et toujours mettre en avant des vins de qualité, équilibrés, frais.
Pour parler très vite on va rentrer dans le vif du sujet, mais très vite du métier d'importateur, donc c'est représenter des vignerons et des domaines, des pays que tu viens de citer, auprès des restaurateurs, des cavistes principalement.
Ouais, c'est principalement ça, restauration, caviste, parce que c'est les endroits où on va pouvoir mettre les bouteilles devant le client particulier ou le consommateur final.
Donc à ces restaurateurs, à ces cavistes, tu leur fais découvrir des bouteilles, ensuite tu assures aussi tout ce qui est approvisionnement.
Tout à fait.
En fait,
il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect qui va être la sélection. Donc on va sélectionner les domaines.
En référencement.
En référencement, on va... on va avoir qu'est-ce qu'on veut en tête. Est-ce que c'est au niveau de prix? Est-ce que c'est au niveau de style? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une, aujourd'hui de plus en plus un certain type de production qui va être cherché, bio plus que conventionnel? Mmh. Bon. Et ensuite cibler quelle est sa clientèle. Est-ce que c'est la grande distribution? Est-ce que c'est la restauration, on va dire gastronomique? Est-ce que c'est les cavistes indépendants ou chaînes? Voilà. Donc, et avec ça, ça nous permet de choisir des domaines en fonction. J'ai eu la chance d'avoir des domaines, on va dire présélectionnés à l'époque quand j'ai démarré la société sur la gamme australienne, avec qui je continue à travailler aujourd'hui. Donc ça fait 20 ans que je les représente. Il y en a d'autres que je les ai sélectionnés il y a 6 mois suite à un voyage au Chili. Donc c'est en mouvement perpétuel sur la sélection. On sélectionne. On travaille avec des transitaires pour faire venir les marchandises. Donc, on essaye de... Ben, c'est toujours par bateau, parce que certes, ça va prendre du temps. 6 semaines, par exemple, pour l'Australie. 6 à 8 semaines, en fonction de là où ça
c'est
part.
C'est pas tant que ça, quand on y pense.
Oh, ça fait quand même 2 mois. Mais ce qui est long, je vais dire, c'est la partie où, quand on place une commande, il est étiqueté pour la France. Donc, on a une réglementation en France qui est d'avoir une petite logo femme enceinte derrière la bouteille ou une mention. Et il faut aussi avoir les coordonnées d'un importateur. Donc, ça nécessite un certain temps de préparation. Ça nécessite également une réflexion par rapport à comment on va faire venir les vins. Est-ce qu'on fait venir juste une seule palette ou est-ce qu'on fait venir un conteneur? Et si c'est un conteneur, est-ce que c'est un 20 pieds ou un 40 pieds? C'est-à-dire 10 ou 20 palettes. Palettes, 700 bouteilles, on va dire. Est-ce qu'on fait venir en conteneur réfrigéré ou pas? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un transbordement en Asie ou pas? Est-ce qu'on veut une directe? Par quel port on va le faire décharger en France?
Voilà, là, c'est toute la dimension logistique.
Il y a vraiment une partie logistique qui est non négligeable.
J'allais dire, c'est comme le métier d'agent, mais alors il y a cette dimension logistique en plus, quoi.
Il y a ça. Il y a aussi le fait d'anticiper qu'au bout de 90 jours du moment du départ du bateau, il faut payer la facture ou les factures. Or, ça fait juste 30 jours que tu as toute cette quantité qui arrive et il faut arriver à l'écouler. Donc, le management du cash flow ou la trésorerie, c'est très important.
Tu payes la facture alors que le vin est encore au milieu de...
Parfois, tu le payes avant, quand tu démarres avec un nouveau domaine, comme avec un nouveau client. On demande un paiement anticipé. Donc, oui, c'est un jeu de cash flow. Il faut être riche pour, pour être importateur. Mais, ou sinon, on réinvestit tout dans la boîte pour faire en sorte que ça continue. Une fois arrivé en France, il y a toute la partie mise sur le marché. Donc, comment tu fais ça? Tu fais des salons, tu rencontres tes journalistes, tu rencontres tes sommeliers, tu ouvres beaucoup de bouteilles et ensuite, tu arrives à faire des ventes et ensuite, tu arrives à être payé. Donc, parfois, tu as des laps de trésorerie de 6 mois, 1 an avant de complètement repasser des commandes. Donc au début, ça prend du temps, mais il faut être motivé, il faut y aller, il faut voir une porte ouverte, on le prend. Si la porte se ferme, on rentre par la fenêtre, côté classique commercial. Et moi, j'ai de la chance, je fais ça depuis quelques années maintenant, donc ça me permet d'être un petit peu connu sur la place, surtout pour l'Australie, étant donné que c'est mon pays fétiche. Et non, je suis très content parce qu'il y a 2-3 mois, on a organisé avec l'ambassade d'Australie et Austrade une grande dégustation de vin australien à l'ambassade. Et ça a permis de réunir plusieurs importateurs et de montrer les vins. Et donc, il y a de plus en plus d'intérêt de la part des sommeliers qui découvrent, qui ont eu la chance de passer du temps en Australie, de travailler dans les restaurants, de se rencontrer et de découvrir les très grands vins australiens et ensuite de pouvoir les trouver ici.
Alors, n'allons pas trop vite parce qu'on va parler de ce côté-là, l'attrait pour les vins australiens et le côté actuel peut-être dans la deuxième partie parce qu'on a envie de défricher un petit peu ce vignoble. Tu as dit un truc, on ouvre beaucoup de bouteilles. Alors nous aussi, beaucoup, je ne sais pas, mais on a aussi l'habitude d'ouvrir des bouteilles. On va commencer par donc déguster un vin. Tous les vins qu'on va déguster dans ces émissions-là, c'est toi qui les as apportés. Peut-être que je te laisse faire le service. Patrice, est-ce que je te demande l'habituel tour d'hélicoptère sur le vignoble australien, les grandes notions qu'on peut avoir en tête quand on regarde ce territoire qui est quand même bien particulier.
On va faire juste faire un petit insert sonore.
Vas-y.
Voilà.
Ça, c'était le bruit.
C'est le bruit d'une capsule.
D'une capsule dévissable.
Capsule à vis.
Capsule à vis. On va y revenir. C'est un thème, parce que chez nous, c'est un peu sortilège, mais sacrilège, pardon.
Parler de l'Australie.
Mais en Australie, c'est classique.
Parler de l'Australie en 3 minutes, c'est quand même assez violent. Mais bon, si on veut faire court.
Mais prends 5 minutes.
C'est le nouveau monde, d'abord, parce qu'il n'y a pas de vigne de manière endémique en Australie. La vigne n'a été emportée qu'il y a 200 ans, un peu plus de 200 ans, par les colons anglais, notamment, enfin britanniques de manière générale. Et justement, par Sydney,
avec les colons.
Par Sydney et du côté du coup de la Hunter Valley, qui est la région historique, c'est là où on a implanté les premières vignes. Donc,
Hunter Valley.
Voilà, donc, et c'était du coup un marché, on pourra parler, qui était très, très tourné vers l'export au sens colon, entre guillemets, et donc ça allait vers ces goûts-là. Et puis ça a basculé vers les années 70, où il y a beaucoup de grandes entreprises, et on garde toujours cette grosse structure avec des très grandes entreprises qui ont voulu exploiter, aller vers l'export, et notamment sur les bases de Shiraz, pour exploiter les vieilles vignes de Shiraz. Après, on pourra développer sur la partie historique. Après, l'Australie.
J'ai noté dans le petit topo que tu nous as fait un truc qui m'a amusé, c'est que les colons anglais, contrairement aux colons, les colons français et espagnols avaient tendance à vouloir écouler les vins du continent dans les colonies. Mmh. Les colons anglais ne produisant pas énormément de vin en Angleterre, eux se sont mis en tête plutôt de produire. Et donc, dès les premiers colons, fin 18e, là, 1788, ils sont venus avec un certain nombre de plantes, dont de la vigne.
Voilà, dont de la vigne. Et là, en fait, la vigne a grandi beaucoup sur le local, parce qu'il y a eu l'exploitation de l'or, et il a fallu faire boire tous les mineurs, on va dire, qui étaient locaux. Et donc, le virage de l'export, c'est plutôt 1970-1980, ouais, avec les grandes entreprises qui vont de là.
Mais on faisait de l'export fin 19e, il y avait des concours à Paris, à l'époque, les expositions mondiales, où certains vins australiens avaient gagné les premiers prix, déjà fin 19e. Mm-hmm. Donc c'était très encourageant pour évidemment l'Angleterre, la colonie, la petite colonie australienne. Mmh. Ouais.
Après, l'Australie, c'est un pays immense, donc c'est le sixième pays mondial en termes de
surface. 14 fois la France.
C'est un continent.
Ouais, c'est la taille de l'Europe. Alors c'est un continent parce que c'est un des bouts du continent original. Hein. Il y a certaines terres en Australie qui ont 2,5 millions d'années.
C'est ça.
Donc, milliards. Milliards d'années. Donc c'est vraiment des terres très endémiques. Mmh. Donc c'est un continent.
Je te cite, donc c'est facile pour moi.
De ce point de vue-là. Et après, c'est très désertique. C'est le deuxième pays le plus désertique du monde après l'Antarctique. 80% des zones sont arides. Donc on a une viticulture qui se concentre globalement sur le sud. Le sud étant le nord, je rappelle que les vendanges sont inversées, on est dans l'hémisphère sud, et qu'on est entre le 30e et le 42e parallèle. Donc en gros, on est le nord, c'est-à-dire le sud de l'Australie, c'est à peu près Bordeaux, et on descend jusqu'au sud du Sahara, juste pour donner un ordre de grandeur en termes de latitude. Donc il est nécessaire aussi que ces latitudes-là, donc l'Australie 30e c'est le nord et 42 c'est le sud, c'est mieux d'être au sud parce qu'on est dans la partie la plus fraîche du climat, et on est surtout beaucoup en bord de mer, 85% de la population australienne vit à 50 km des côtes, et on a nécessité d'avoir ces influences australes de l'océan Indien et de l'océan austral justement, pour avoir un peu de fraîcheur, puisque le gros problème près d'Australie, c'est bien évidemment le problème d'eau. On est obligé d'irriguer dans beaucoup d'endroits, et le problème de la sécheresse qui fait qu'on a beaucoup aussi d'incendies en Australie, qui impactent la vigne, à la fois parce que la vigne elle brûle, mais aussi parce qu'elle peut être impactée par des pluies âcres, on va dire ça comme ça, qui détourent un peu. Bon, ça c'est les grands axes majeurs, et après on a bien sûr quelques grandes régions, on en a parlé, Hunter près de Sydney, mais globalement ça se concentre entre, on va dire effectivement, Adélaïde, du côté de tout ce qui va être Barossa, les grandes régions historiques, du côté de Melbourne avec Yarra Valley, Mornington Peninsula, et puis la région historique de Sydney du côté d'Hunter. Et puis bon, là, on a ça c'est à l'est. Et au sud-ouest, on va avoir Margaret River qui est plutôt proche, on va dire, d'influence bordelaise. Alors là, c'est dans les très 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 grandes lignes. Et après, on a surtout, on est dans le Nouveau Monde, donc on a plutôt. Alors nous, on est plutôt orienté terroir, les Australiens aussi, mais enfin, c'est d'abord le cépage qu'on met en avant sur l'étiquette. Après, on reviendra sur ces notions-là. Mais voilà, en termes de découpage, ils ont trois grandes régions. Ils ont vraiment des très grandes zones qui correspondent à South East Australia, etc. Mmh. On a des sous-régions comme Barossa. On peut avoir des sous-sous-régions à l'intérieur comme Clare Valley, qui est une quasiment sous-région. Enfin, on a un découpage qui permet de faire beaucoup de choses et beaucoup de liberté en termes d'utilisation des cépages dans les assemblages et dans les appellations australiennes.
Gaëtan.
Oui.
ce tour d'horizon, tu as des choses à ajouter ? Corriger, non, hein, je ne te demande pas.
Corriger, non.
Non, non, tout est juste.
Là, on peut ouvrir la boîte de Pandore. Là. Il y a tellement de choses à dire. Si on reprend sur la partie historique, effectivement, les colonnes et les premiers cèpes de vignes sont arrivés via le Cap, en Afrique du Sud.
Pas directement d'Europe.
Pas tout à fait. C'était vraiment, ils avaient pris des pieds de vigne au Cap. Le problème, c'est qu'ils avaient planté ça du côté de Sydney. Et Sydney étant assez humide.
Trop humide.
Ça n'a pas pris au début.
Ça n'a pas vraiment pris très bien. Et les vignes qui sont arrivées étaient malades. Donc, voilà, ce n'était pas très concluant. Et on parle de James Busby, qui était le père de la viticulture moderne d'Australie, qui était un
1830,
botaniste.
1830.
C'est ça, 1830, qui a été renvoyé en Angleterre et en Europe pour aller faire le tour des différents pays, différentes régions viticoles, pour récupérer des pieds de vigne et ramener ça. Il y a aussi une deuxième raison. La première raison, c'est que oui, ils voulaient travailler sur l'agriculture, d'avoir la vigne, aussi avoir un approvisionnement pour l'Angleterre. Mais il y avait aussi le fait qu'on avait des prisonniers et on avait des soldats. Et à cette époque, le rhum était vraiment très problématique. Donc il y avait des problèmes d'alcoolisme aussi. Et le gouverneur de la région s'est dit, le vin, il y a moins d'alcool. Et donc, du coup, ça va être mieux pour la colonie.
Rester alcoolique, voilà. Mais plutôt avec du vin qu'avec du rhum.
Un peu moins. Bon, on est devenu un pays très bière aussi par le climat, par l'environnement. Mais aujourd'hui, le vin, ça devient quelque chose de plus en plus répandu et spécifique. Sur la partie géographique, effectivement, l'Australie, c'est sur un continent. C'est un continent. On parle de Lisbonne à Saint-Pétersbourg. On met le pays sur les États-Unis, sur toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment immense. C'est 4000
km. Ce que la carte me permet, parfois la carte tout à plat ne laisse pas penser en fait. On sait que ces cartes, ces planisphères aplatis donnent pas forcément l'impression de.
Alors juste pour vous donner une idée sur les grandes villes, Sydney, Melbourne, c'est Calais-Marseille. Déjà. Donc c'est.
Alors que sur la carte, c'est pas très loin.
Sur la carte, c'est pas très loin. Mais vous avez 4000 km de Melbourne dans le nord à Cairns ou pareil pour aller à Perth. Donc c'est des distances immenses. Sur l'irrigation, il n'y avait pas d'irrigation jusqu'à dans les vignobles, on va dire modernes, jusqu'à assez récemment, jusqu'à dans les années 80-90. Avant, c'était dry ground, sauf dans la région de Murray-Darling, donc qui est le confluent de rivières, le Murray River et le Darling, donc dans le nord de la Victoria, le sud de Nouvelle-Galles du Sud, où l'irrigation a été introduite et ça a permis d'avoir des cultures, donc non seulement la vigne, mais aussi des pêches, des abricots, des poires, citrons, un petit peu dans le centre du pays. Et effectivement, on va dire 90% des vignes se trouvent dans la partie sud-est du pays, près des côtes. Et effectivement, l'influence océanique est très importante et très recherchée. C'est plutôt des climats méditerranéens, parfois un peu continental quand on va dans les terres. Et aujourd'hui, on voit que avec le réchauffement climatique, avec la sécheresse, on va monter plus en altitude pour trouver la fraîcheur ou aller plus dans le sud, style la Tasmanie.
Ouais. Alors, tu nous as servi un premier vin.
Oui.
On reviendra sur la capsule peut-être. Et donc ça, comme on s'est dit qu'on allait commencer par des choses un peu typiques, qui marquent peut-être une certaine identité, personnalité des vins australiens. En quoi, pour toi, d'abord, quel est ce vin qui a un parfum envoûtant, hein, j'ai envie de dire, qui est vraiment très séducteur, très, très, très agréable. En quoi ce vin, il est, quel est ce vin, de quoi il est fait et en quoi il a un profil de vin typiquement australien.
Alors déjà, c'est un vin unique dans son genre. C'est 100% Sémillon, donc déjà c'est un cépage français qui a été emmené en Australie pour faire des vins à la fois moelleux ou des vins secs, c'était à l'époque, ou parfois distillés. C'est un vin qui est issu de la région de Hunter Valley, donc on est à 1h30 au nord de Sydney. dans le contre-pied de la grande chaîne de montagnes qui contourne toute l'est du pays, Breckenridge Ridge Mountains, et donc Great Dividing Range et ensuite le Breckenridge. Hunter Valley, c'est cette région viticole qui est aussi connue pour l'extraction de charbon. Donc il y avait une grosse activité minière dans la région. Et ça, c'est une région viticole depuis le milieu des 1850. Là, c'est la maison Tyrrells, donc établie en 1853. Donc on voit, on a un petit peu d'histoire là. C'est 100% sémillon, donc cépage bordelais, qui jusque dans les années 60-70 était souvent élevé en bois. Et souvent, c'était des vins qui tombaient très vite. Et Mary Tyrrell et Bruce Tyrrell, donc Bruce, c'est la cinquième génération, avec son père, il a décidé de vendanger beaucoup plus tôt le sémillon. Et plus tôt, ça veut dire mi-fin janvier. Donc il faut imaginer que les saisons sont inversées.
Calons un peu.
Voilà.
Les vendanges, c'est quand ? Typiquement. Alors, nous, c'est septembre, ça a tendance à commencer maintenant en août.
En août, voilà.
Alors donc, qu'avant, c'était plutôt fin septembre. Et aujourd'hui, alors, en Australie.
Alors, nous, on va vendre. Ça dépend où tu es, parce que comme c'est un grand pays, c'est, on ne peut pas tout généraliser, mais on va dire que c'est principalement de fin janvier à début mai. Donc mars. Mars, ça va être septembre. Septembre, donc c'est l'équivalent, janvier, c'est l'équivalent de juillet.
Ça s'étale sur 4 mois. Les
mais manches. C'est parce que le raisin est mûr phénoliquement à cette période-là. Donc, on a un vin qui titre 10,5 degrés d'alcool, c'est donc c'est très bas. C'est une vinification, fermentation, vinification en cuve. Ça reste sur l'élise pendant 2 mois et ensuite mise en bouteille. Là, la particularité avec ça, c'est. Alors, si vous ne voyez pas le millésime, vous aurez dit que c'était un vin qui était plutôt jeune ou un peu d'âge.
Plutôt jeune.
Plutôt jeune, oui.
Spontanément, on dit que c'est un vin relativement jeune. On a des notes d'agrumes, d'une bonne acidité, mais c'est 2017. Et ça, c'est vraiment la particularité de sémillon de Hunter Valley, c'est d'avoir ces vins qui vieillissent et se développent en bouteille. Et c'est des très grands vins de gastronomie. On a
un peu cueilli en sous maturité quand même.
Non, pas trop. Pas trop, parce qu'avec de l'âge, ce que vous allez voir, et Valérie, t'as assisté à des, t'as pu assister à certaines dégustations où on a montré les vieux millésimes de ça. T'as un côté brioche,
pain grillé,
qui va ressortir au fur et à mesure. Mmh. C'est pas en sous-maturité, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on a la maturité phénolique, mais ça titre seulement 10-17,5.
Donc là, ce qu'on pourrait craindre, parce qu'effectivement, on se dit que c'est un vin jeune, il est quand même très vif, alors qu'il a 6 ans, mais en première année, il n'était pas trop acide, je veux dire.
Ah si, les acidités sont très marquées dans la jeunesse.
Donc il vaut mieux attendre quand même un peu pour boire ce vin.
On peut attendre. Là, c'est 2017. C'est ce qui va arriver au mois de septembre ici en France. Et ça, c'est un millésime chaud. Donc,
le sémillon, c'est pas pour ça qu'on fait un liquoreux, c'est que c'est un cépage naturellement acide. Sinon, on ne ferait pas de liquoreux avec. Il ne tiendrait pas le sucre. Donc, le sémillon est naturellement acide.
Donc, ça, c'est Tyrrells. HVD, Single Vineyard, donc HVD, c'est le nom de la parcelle, et c'est une parcelle qui a été plantée en 1905. Donc c'est des vignes 115 ans maintenant.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin, Valérie ?
Moi je le connais, il y a un côté un peu fumé, un peu pétrolé, à l'aveugle. Je pense que spontanément je serais partie sur certains Riesling qui peuvent donner ça, d'Alsace. Mm-hmm. Si on m'avait dit « le monde est à toi », la France et tous les vins du monde, je ne serais pas du tout parti sur un sémillon, clairement pas. Et voilà, bon. Mais voilà.
Oui,
certains
Pessac aussi, du coup.
Alors, oui,
qui ont un petit côté fumé au nez, les Pessac blancs, bien sûr.
Oui.
Mais on aura quelque chose un peu plus gras.
Sûr.
Là, on a vraiment une tension.
Il n'y a pas de malo, là.
Il n'y a pas de malo.
Ouais, donc c'est ça. Ils ont gardé l'acidité.
Tout à fait.
Mais moi, je trouve qu'on ne salive pas plus que ça. Je ne trouve pas ça. Là, je le trouve pas si acide. Pas du. Enfin.
On a des pH assez basses aussi, donc qui permettent...
Ah oui, non, ça ne déchausse pas les dents. Hein. C'est juste que c'est vif, en fait. Si on constate un blanc au bout de 6 ans qui a encore cette vivacité, on se dit peut-être que... Voilà. Mais on a la mise en bouteille, il était encore plus vif et peut-être un peu difficile, mais là, c'est très agréable.
Hein. Mmh. En gastronomie, c'est un vin que les étoilés, ils adorent travailler. Parce qu'il peut emmener les clients partout et on fait des très très jolis accords avec.
Oui, non, c'est léger, c'est fumé, il y a un côté agrume, c'est acide mais pas trop.
Il donne envie d'y retourner.
Hein, oui, c'est ça. Puis on a une certaine salinité quand même qui reste en bouche à la fin.
Oui, oui, complètement.
Alors ça, c'est un vignoble qui effectivement n'est pas très très loin de la mer. Mais cette fois-ci, c'est l'océan Pacifique qui va réguler le... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le sémillon, c'est un cépage qui a tendance à botrytiser. Et cette région, c'est une région assez chaude, assez ensoleillée. Donc, le véraison, c'est assez rapide. Et on a cette humidité qui va venir de la mer. Donc, qui peut parfois avoir une incidence au niveau botrytis dans le vignoble. Mais le fait d'être juste de l'autre côté de la chaîne de montagne, et juste derrière cette montagne, c'est très sec. Et donc, on a des vents très sèches qui vont venir sécher le raisin, et ce qui permet de vendanger très tôt aussi.
Un petit point sur les cépages, peut-être. Là, d'emblée, tu nous sors un sémillon, cépage bordelais blanc. Dans l'ensemble, l'encépagement du vignoble australien, je sais que la Syrah, qu'on appelle chez vous
Shiraz,
est omniprésente.
Oui, c'est 40% à peu près.
Pour les rouges, c'est le cépage rouge le plus planté.
Et le cépage en général.
En général. Ouais. Et en blanc, sans surprise. C'est pas le sémillon, c'est plutôt le chardonnay.
Oui. Chardonnay, sauvignon, sémillon.
Et Riesling.
Ce sont les quatre dominants. Mm. Et en rouge, donc Syrah, enfin Shiraz, Cabernet Sauvignon, je pense qu'on dit comme ça en australien. Et Pinot Black Pinot, Pinot Noir.
Et Pinot Noir.
Pinot Noir. Grenache.
Ouais. Et après Grenache, ouais, Mourvèdre, un peu de Mataro.
Mataro.
On l'appelle Mataro là-bas. Mm. Mourvèdre.
Alors, ça dépend où. Barossa Valley, c'est Mataro.
Voilà. Mm. Et l'arrivée, mais ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais des cépages, on va dire, latins, avec Tempranillo et Sangiovese qui prennent beaucoup de place.
Nebbiolo aussi.
Nebbiolo aussi.
En fait, on a 120 cépages, 120, 150 cépages qui sont plantés dans le pays. Donc, il y a énormément de matière. Mais c'est vrai que c'est un marché assez traditionnel. L'Australie a fait sa réputation avec Shiraz. Ça, c'est vrai.
Mais typiquement, pour revenir sur le sémillon, il n'y a pas beaucoup d'autres régions dans le monde qui font une version du sémillon sec comme ça.
Non.
Si. Je crois pas que c'est vraiment... Là, c'est vraiment typique Australie et c'est vraiment typique Hunter Valley.
Exactement. Et c'est pourquoi je voulais montrer ce vin dès le départ. C'était de dire, OK, ça, c'est uniquement australien. Il n'y a nulle part dans le monde où tu peux faire des grands vins de sémillon à 17,5 ou à 10, à bas d'alcool, et d'avoir cette longévité
J'allais le dire tout à l'heure, c'est pas unique. Tous les jours qu'on goûte des vins à 10,5 degrés. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive dans l'émission. Hein.
Oui, parce qu'on n'a pas fait l'Allemagne. Mais
C'est vrai.
Les Allemands font des vins comme ça.
Il y a 8, 8, 10.
Ok.
Mais c'est pareil, un peu en sous-maturité. Enfin, bon, après, c'est des travaux particuliers. Mais...
C'est pas désagréable, on peut en boire plus.
Moi j'ai dit que c'est un...
C'est exactement ce que disaient les militaires. Et les...
c'est un vin pour le brunch. On peut démarrer les huîtres, le petit déjeuner, si on se lève.
Sur les huîtres, c'est intéressant.
Ah, c'est super avec les huîtres.
Vraiment. C'est un petit côté un peu fumé, sympa. Ah, plus,
c'est
vient
vraiment génial. Ouais.
Alors si on continue ce panorama des caractéristiques un peu du vignoble australien, alors on a compris que toutes les distances sont immenses. Quel est le profil type d'une exploitation? Tu l'as dit déjà un petit peu dans ta présentation, tu as cité déjà des noms de grands groupes français, on retrouve évidemment LVMH, on retrouve aussi Pernod Ricard qui est le deuxième producteur de vin je crois, les producteurs de vins australiens qui appartiennent au groupe mondial qui est Pernod Ricard, c'est par rapport à notre profil d'exploitation. Alors nous aussi, on a des grands domaines en France et en Europe, mais là, c'est quand même la norme, c'est-à-dire plutôt des grands domaines. On a une idée de la taille moyenne d'un domaine viticole en Australie.
Déjà, avant de répondre à ça, je pense que c'est intéressant de dire que le vignoble australien, c'est à peu près la taille du vignoble bordelais.
La totalité. D'accord.
Donc, on est
en hectare, en nombre d'hectares. D'accord.
Voilà. Donc, c'est
tout de suite, tu redimensionnes tout petit, là.
Voilà. Voilà. Quand on regarde une carte de vignoble australien, on voit qu'il y a ces grandes zones qui sont indiquées. Oui, c'est les zones géographiques. Par contre, la disposition le placement de ces vignobles, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Il y a des régions viticoles très grandes, il y a des régions Murray-Darling, tout ce qui est irrigation. So Riverland, Murray-Darling, c'est des endroits où tu peux avoir des vignobles de 3000 hectares. Oui, ça existe. Comme tu peux avoir des tout petits vignobles de, je sais pas, moins d'un hectare. Ça existe aussi.
Qui fait son vin ?
Pardon ?
Qui fait son vin, celui qui a un hectare ? Il fait son vin ou il cultive et il revend son raisin ?
Parfois, les deux.
Les deux, d'accord.
Les deux. On a, alors, traditionnellement, il y a toujours eu une séparation entre grape growers, donc les viticulteurs.
Le viticulteur qui fait pousser la vigne.
Qui fait pousser la vigne, qui travaille dans le vignoble, qui vend son raisin à un winery ou une marque, qui lui va avoir son winemaker ou son œnologue et qui va commercialiser les vins sous ce nom.
Un peu le schéma.
Pernod Ricard, par exemple, c'est typiquement cela. Ils ont très peu de vignobles en propre, mais ils vont à Penfolds ou ces grandes structures qui vont avoir un myriade de petits producteurs ou grands. Et où ils vont sélectionner le raisin en fonction de la qualité de raisin qu'ils recherchent.
Schéma champenois un petit peu, on pourrait dire.
Tout à fait, oui. Donc, ou si on veut faire la villageoise, on va être un peu moins regardant sur la qualité. Oui, parce que ça aussi, ça existe. On a des vins qui sont...
Mais on ne va pas en parler.
Non, mais...
si tu veux bien.
Mais il n'y a pas de... Mais c'est une réalité, il y a
oui, comment ils appellent ça les aussi, mais...
j'ai des petits jeunes français qui me disent quand ils reviennent oh, on a goûté du bung et c'est de la piquette, donc ça existe. Bon, pas la piquette US qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais la piquette le mauvais vin. Oui, les grands groupes, ils vont travailler, ils vont avoir un cahier de chartes par rapport à une qualité de raisin qu'ils vont demander pour tel et tel cuvée, pour tel et tel prix. Quand on prend Grange ou quand on prend il faut que la qualité soit top et ils sont payés un premium. Il y a beaucoup de œnologues ou beaucoup de wineries qui vont intervenir avec leur équipe de viticulturistes pour donner un coup de main aux viticulteurs pour dire voilà, on aimerait bien que tu tailles comme ça pour avoir un raisin.
Ah oui,
il
remonte
voilà.
Quand même un petit peu
donc
en
ça,
amont
c'est,
de la
c'est
filière.
C'est approfondi, oui. Vous avez aussi des vignobles, on va en goûter un tout à l'heure, où c'est en propre, c'est vraiment des vignobles en propre. Tyrol, c'est en propre, l'autre, ça va être en propre. Et il y en a d'autres où c'est un peu d'achat de raisins pour compléter les approvisionnements.
Mais sur le volume, en tout cas, il y a 50% des volumes qui dépendent de 4-5 très grandes entreprises.
C'est vrai. Les Castella avec Yellowtail.
Treasury Wine Estate.
Treasury.
Qui a Penfold d'ailleurs.
Donc il y a Penfold, qui a Lindemans, Rosemount, Wind, Pernod Ricard qui a Jacobs Creek.
Accolade Wines.
Accolade qui n'a pas arrêté de. Bon, déjà c'est Hardy's à la base. Mais de racheter des domaines et des groupes de domaines au fur et à mesure.
Donc une forme de concentration quand même.
Il y a
côté.
Une concentration, mais beaucoup, un peu moins qu'avant. Par contre, il y a énormément de petits vignerons. Donc
ça s'appelle les boutique estates, c'est ça ou...
Parfois, ça peut être medium size. Donc en fait, on va compter en production en termes de caisses. Donc il y en a qui font des millions de caisses. Il y en a qui font... quelques dizaines de...
Et Treasury Wine, c'est 200 millions de bouteilles. Hein.
Ouais.
Et 1 milliard de chiffre d'affaires. Enfin, 900 millions. Donc,
c'est costaud, ouais. Mais, alors, beaucoup exporté parce que le marché national ne peut pas tout absorber. Forcément, on est 26 millions où tout le monde ne boit pas le vin. Je pense que la consommation par litre par personne, c'est... ça commence à monter, ça doit être dans les 16 à 18 litres par personne par an. En France, on doit être pas loin des 40.
Mais nous, ça baisse.
Mais c'est en train de baisser. Ouais.
Deuxième vin pour continuer cette exploration et on essaye de balayer un peu les généralités, les choses qu'il faut savoir sur le vin australien. Et puis après, on fera un focus sur peut-être l'actualité, justement, les tendances, les cépages latins qui s'invitent dans le vignoble australien et le goût des Australiens, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ça. On est passé à la couleur rouge.
Oui. Alors là, on est parti dans une région historique encore, qui est le Barossa Valley. Donc c'est à une heure et demie au nord d'Adelaide cette fois-ci, donc centre-sud du pays. Ouais. Autour d'Adelaide, l'état de South Australia, c'est 50% de la production en Australie. Donc grosse proportion avec Riverland, Langhorn Creek, mais avec des plus petites régions comme Barossa, Eden, Adelaide Hills, McLaren Vale, Coonawarra, Clare Valley. Ici, c'est Barossa Valley et ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'achat de raisins d'une marque. Là, la marque, c'est Rockford, ou le domaine. Rockford, c'est un domaine mythique dans la région. C'est assez rare de trouver ces bouteilles. Déjà en export, c'est difficile de les trouver en Australie. Rockford, c'est un peu, je dirais, un des pères, Robert O'Callaghan, qui était un des pères de la renaissance des vieilles vignes dans la Barossa Valley, où dans les années 80, le vin ne se vendait pas très bien en Australie, et donc avec quelques autres producteurs, ils sont allés voir les différents vignerons en disant « On va racheter le fruit de vos vignes, n'arrachez pas. » on va vous payer encore plus cher, vous nous laissez remettre vos vignes en état. Et c'était vraiment le début de cette préservation des vieilles vignes dans la région de Barossa et qui a été vraiment mis en avant par un groupe de MWs, donc Master of Wines, qui sont venus en Australie et qui ont découvert ces vins. Ils ont dit « Waouh, c'est génial, il faut qu'on connaisse ça ». Et donc, Angleterre était un gros moteur pour la reconnaissance de ces vins issus des vieilles vignes. Là, quand je parle de vieilles vignes, c'est des vignes parfois plantées 1840, 50, 60, 70, 80.
Sachant que l'Australie a connu le phylloxéra.
Oui.
Mais a peut-être été moins impacté que la France, typiquement.
Beaucoup moins.
C'est pour ça qu'on a des vieilles vignes. Alors, on a des vieilles vignes post-philo, parce qu'il y a eu le phylloxéra. Mm. Alors, je ne sais pas, c'est quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de sol sableux en Australie ou le...
Alors, c'était très localisé. Il y a encore un peu de phylloxéra, mais ce n'est pas répandu. Et effectivement, il y a des sols sablonneux qui fait que ça ne se propage pas. Par contre, on est très méfiant des visiteurs dans les régions. Les vignobles sont clôturés. On ne rentre pas dans les vignobles comme ça. Il faut avoir des couvre-chaussures. Il faut être invité par les vignerons de rentrer, etc.
Encore donc aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Australie, on plante francs de pied. On ne greffe pas.
Il y a des endroits où c'est greffé, mais il y a énormément de francs de pied. Alors, on a déjà une quarantaine qui est très stricte, déjà à l'entrée du pays. Et quand on vient des autres...
Je crois que Novak Djokovic, il n'est pas rentré à cause de ça. Bon.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Il n'a pas eu le droit. Mais il n'a pas le phylloxéra. Hein.
C'était le Covid.
Bon, c'est une autre épidémie.
Mais déjà, quand on rentre dans le pays, tu as un petit questionnaire qu'on te fait remplir avant de rentrer. C'est est-ce que vous êtes allé sur une exploitation agricole depuis 15 jours? Donc, donc là,
Rockford,
Shiraz Cabernet, donc un petit, c'est dominant Shiraz, le reste est en Cabernet Sauvignon, 2018, donc qui était un très joli millésime, très grand millésime, 67% Shiraz et 33% Cabernet Sauvignon. Basket press, donc presse à l'ancienne, presse verticale à l'ancienne en bois. Et ensuite un peu d'élevage en bois et assemblage très typique d'Australie, d'assemblée Cabernet, Syrah pour le côté très juteux, le fruit, la gourmandise, Cabernet pour apporter un peu de structure et c'est des vins qui vieillissent extrêmement bien. J'ai eu la chance de goûter des vins qui avaient 40-50 ans, extraordinaire.
Ah oui.
Non, c'est vraiment des choses qui vieillissent super bien. Donc là, on est à 13,8 degrés en alcool. Dans les années 70, ces assemblages, je me souviens d'un... c'était soit Yolande ou Wind, on était dans les 12,5. Donc c'est... Oui, les alcools, ils ont monté un petit peu
avec le réchauffement.
Comme partout, avec le réchauffement, et aussi parce que les gens cherchaient à avoir des vins plus mûrs.
Ah, ça c'est intéressant.
N'oubliez pas que l'Australie a aussi passé par l'influence Parker, l'influence notation américain pour avoir des vins un peu plus riches.
Ce vin, Ouais, d'abord, j'adore. Et j'ai pas l'impression d'en avoir déjà goûté de ce vin-là.
Beaucoup de fruits. C'est vraiment top.
Non, c'est... Très bien. Donc, effectivement, on sent un peu l'élevage, mais c'est vraiment très bien intégré. C'est pas... Enfin...
Oui, c'est pas du tout omniprésent.
C'est fait en finesse. Et bon, là, il est un peu frais, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que...
Parce qu'il fait chaud.
Et je pense qu'on l'aurait peut-être un peu flingué si on l'avait bu trop chaud. C'est mieux de boire un vin un peu trop frais qu'un peu trop chaud.
Puis là, c'est vraiment un vin de repas, pour le coup. Donc, c'est... On est d'accord.
Non, c'est à la fois puissant mais élégant. Donc, il n'y a pas le côté un peu surmaturité, surchaleur qu'on sent. Peut-être que c'est dû aux vieilles vignes aussi qui vont chercher très très loin et qui rendent le meilleur de leur domaine. Non, c'est très chouette. Et effectivement, on parlait de ça tout à l'heure en off, mais on est sur un assemblage un peu type Trévalon. Et on est un peu sur cette. Peut-être un poil d'élégance encore en plus sur Trévalon. Mais on est sur ce type d'assemblage. Sur ce type d'assemblage-là où on est vraiment dans la finesse des deux cépages, quoi.
C'est pas, tu as cité Trévalon, effectivement, c'est pas forcément hyper fréquent cette association Syrah-Cabernet. Il y a des endroits.
Alors, c'est pas fréquent en France.
Voilà, en France, oui.
Mais c'est peut-être beaucoup plus fréquent.
Dans notre référentiel, par contre, c'est très courant.
Disons que.
Très courant.
Nous, en fait, on a le problème des AOC. Donc, si on veut. Trévalon, c'est une IGP, pour rappel. C'est voilà. Pour que la Syrah et la Cabernet chez nous se rencontrent déjà dans une AOC, c'est un peu compliqué.
Mais du coup, c'est intéressant.
Déjà, par rapport à Trévalon, il y a deux, trois choses à dire. Un Trévalon, c'est tout près de l'océan, donc on a une influence assez marquée. Et ici, on a un ensoleillement et chaleur qui est quand même très présent. Moi, ce que j'adore avec ça, c'est qu'on a une vraie gourmandise. On a quelque chose qui est profond, on a une longueur en bouche qui est assez remarquable. Et je sais que c'est un bébé, c'est presque trop violent de l'avoir sorti en 2018. Ça, c'est vrai, c'est un vin qu'on aimerait bien sortir peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
On se redonne rendez-vous.
On pourrait, ouais. Je ne sais pas s'il fera aussi chaud ou plus chaud. Mais effectivement, le service de température, température, c'est extrêmement important avec les vins. Bon, nous qui sommes dans le vin, on fait attention quand on sert des vins, quand on boit des vins. Mais je pense que c'est important aux auditeurs de ne pas oublier que quand il fait chaud comme ça, il faut que les vins rouges, surtout les rouges, soient mis au frigo une heure à l'avance pour les rafraîchir, parce que dès que vous les mettez dans le verre, dans l'espace de 5 minutes, vous avez un vin complètement différent. Et qui va en 10 minutes et à température de la pièce. Donc si on est dans une pièce à 25-30 degrés, bah, ça fait que le vin il s'exprime pas aussi bien qu'il pouvait.
En fait, pour le boire à température, il faut le servir froid. Quand il fait ces chaleurs-là, il faut accepter de, éventuellement d'attendre un peu quand il est dans le verre, qu'il atteigne la bonne température. Mais si tu fais l'inverse, tu n'atteindras jamais la bonne température parce qu'il va être trop chaud. S'il est à bonne température quand tu le sers, il va être très vite trop chaud.
Là, ne serait-ce que là, mais on voit qu'il évolue, ne serait-ce que le nez. Là, le nez il y a 5 minutes et maintenant, ce n'est plus le même.
Exactement. Mais aussi de garder une bouteille, si vous êtes en terrasse, si vous êtes à l'été, gardez votre bouteille dans un seau d'eau. Pas forcément glacée, mais juste de l'eau, quelque chose qui va la rafraîchir.
Un petit mot sur le système des appellations. Nous, on a notre grille en tête. Hein. On ne va pas rappeler l'INAO pour nous expliquer. Mais qu'en est-il justement en Australie? La liberté de mixer des cépages, de planter ce qu'on veut, où on veut, c'est un petit peu moins cadré qu'en Europe, en tout cas qu'en France.
Alors, il y a plusieurs législations qui sont obligatoires. Déjà, l'Australie fait partie de... l'OIV, donc Office international de la vigne et du vin, et donc respecte les lois qui sont internationales, c'est-à-dire sur l'étiquetage des bouteilles, c'est-à-dire d'avoir un cépage qui soit indiqué à 85% minimum dans la bouteille. S'il y a une région qui est indiquée, qu'il y a aussi minimum 85%. S'il c'est un millésime, que c'est minimum 95%, me semble-t-il. Donc voilà, il y a certaines règles qui sont respectées. La taille de la bouteille, le volume de la bouteille, le taux d'alcool, etc. Ensuite, il est vrai qu'on n'a pas un système d'appellation d'origine contrôlé, et tant mieux, parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup de liberté. Ça veut dire que c'est plutôt une réflexion, je dirais, pragmatique, qu'une réflexion de règles, encadrement très strictes. peut-être là aussi a été mis en place, et je pense que, il me semble de mes cours d'histoire, là aussi a été mis en place parce qu'il y avait tellement de dérives. Et il fallait cadrer et recadrer l'opinion
c'est ça,
française.
C'est une période de surproduction et de concurrence déloyale.
Il y avait du grand n'importe quoi, voilà. Il faut dire des choses comme ils sont. Maintenant, je pense que l'Australie, on n'est pas dans la même position. On a un système qui est assez libre dans le sens que si ça marche commercialement, pourquoi pas ? Je vais vous donner un exemple.
Le pragmatisme anglo-saxon.
Absolument, il faut. Si on et là on va en parler aussi avec la capsule à vis parce que c'est complètement pragmatique, c'est pas émotionnel. Vous prenez une région comme Margaret River. Margaret River, c'est donc l'extrême sud-ouest d'Australie, à 3h30 au sud de Perth. Magnifique région viticole qui, dans les années 60, il n'y avait rien. Il y avait des forêts vierges, des forêts d'eucalyptus. C'est à 10 km de l'océan Pacifique. C'est des spots magnifiques pour le surf. Il y a des cavernes. Il y a tout pour être content et heureux. Et à l'époque, il y avait un peu d'agriculture. Parce qu'il y avait un peu d'agriculture partout en Australie. Et le gouvernement de Western Australia avait commandité un rapport sur l'exploitabilité de la région. Et le rapport était rendu en disant que voilà, c'est une région qui est très adaptée à la culture des arbres, des arbustes fruitiers, et aussi à la vigne. Et donc, en 67-68, il y a eu des médecins de Perth qui ont commencé à planter. Donc, c'était Callity, c'était Callan, c'était Lewin. Voilà, il y avait quelques-uns. Et comme le rapport avait dit, on a des sols graveleux, on a une proximité de l'océan, ça ressemble beaucoup à Bordeaux, on va planter des cépages bordelais. Et donc a été planté Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Sémillon, Sauvignon. 72 arrive, donc les vignes, ils ont 4 ans, et il y a un show qui est fait en Australie qui s'appelle The Jimmy Watson, et c'est donc pour les vins qui sont primés dans leur première année. Donc première année d'élevage, ensuite ils sont
concours de primeur.
Concours. Et Margaret River gagne 2 années de suite, Cabernet. Donc, toute l'attention a été tournée sur cette région. Augmentation de production, etc. Ça commence à prendre. Et ils n'avaient pas planté que ces cépages bordelais, mais ils ont planté plein d'autres choses pour voir qu'est-ce qui allait marcher. On est en région vierge. Donc,
tu fais
plein d'expériences et tu vois qu'est-ce qui marche. Cape Mantle, ils avaient planté Zinfandel. Ou le Primitivo, si on veut.
Apparemment, c'est pas Xbo. On va pas faire le débat.
Mais... Non.
Ouais, mais on s'est rendu compte que le chardonnay marchait super, super bien dans cette région. Et donc, aujourd'hui, c'est une des plus grandes régions de chardonnay en Australie, Margaret River. Mais vous imaginez si on pouvait planter chardonnay à Bordeaux aujourd'hui. Mais on peut pas. Sauf si on le sort complètement de l'appellation, parce qu'il n'a pas le droit, il n'est pas autorisé dans l'appellation. Donc, il y a cette liberté. On va voir aussi avec les assemblages, on peut faire ce qu'on veut, si ça marche. Et si ça marche commercialement. Si tu as planté ta vignoble et tu t'es planté parce que tu es 20 ans en avance sur un trend ou tu es vachement à la trend, les gens ils n'hésitent pas de...
D'arracher,
de couper et regreffer.
Et regreffer, surgreffer. On arrive déjà au bout de la première partie de cette émission. Faisons ce petit spot sur les bouchons. La première des deux bouteilles, c'était donc un bouchon, une capsule à vis. La deuxième, tu l'as ouverte, c'était un bouchon traditionnel comme le nôtre. Tiens, j'en profite, petite incise. La première bouteille a vraiment le profil de la bouteille Côte-du-Rhône. Ou Bourgogne, voilà, c'est le profil Bourgogne de chez nous. La deuxième a exactement la forme d'une bouteille de Bordeaux. Voilà. Qu'en est-il de cette histoire de bouchon ? Chez nous, bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Un vin qu'on décapsule, c'est forcément un mauvais vin, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est pas un débat en Australie.
Non.
Un grand vin peut très bien être dans une capsule.
Absolument.
Ça bah, se défend très bien.
On a vu.
Un vin de garde.
Le premier
et même vin, vin de garde, même un vin qu'on peut garder. Alors qu'on Absolument. A tous un peu en tête que oh, le liège, c'est formidable, ça permet à l'oxygène de passer, c'est ce qui aide à la,
micro-oxy-
à la, à la micro-oxygénation du vin, à son vieillissement. Vas-y.
Alors, je pense que, comme avec beaucoup de choses, il y a la mythe. Il y a l'émotion et il y a le côté culturel qui fait qu'on perpétue certaines mythes sans connaître les sciences. Donc moi, j'ai fait science, donc j'aime bien comprendre ce qui se passe et ce qui m'a amené dans le vin. Dans les années 80-90, même 2000, il y a eu des taux d'incidence de bouchons de nez de vin bouchonné avec trichloranisole qui était sur le marché. Alors, je vais faire attention, mais essayer d'être un petit peu diplomatique.
Il y avait aussi beaucoup de vins bouchonnés.
Il y avait beaucoup de bouchons
de
qui étaient produits parce que l'augmentation de la production internationale a fait qu'il y avait une demande de bouchons. L'industrie viticole ne connaissait que le bouchon liège. Et à partir des années 90-2000, on commençait à expérimenter avec des bouchons synthétiques, agglomérés, etc. Donc, on avait ce fléau qui représentait près de, parfois jusqu'à une bouteille sur quatre, 25% de taux d'incidence de bouchonné. Donc,
ah, c'est embêtant,
vous imaginez le préjudice qu'il y a pour un vigneron, pour une marque d'être obligé de renoncer ou de balancer un quart de sa production.
Mais c'est monstrueux, hein, sur quatre aujourd'hui. Enfin, nous,
aujourd'hui, c'est dans les 10%.
En Europe
7 à 10%. Bah, partout.
Okay.
Alors, l'Australie, il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre que les meilleurs bouchons, bon, toutes les bouchons sont produits au Portugal. Que les meilleurs bouchons étaient réservés pour les marchés traditionnels, Portugal, Espagne, France, Italie. Les États-Unis, ils ont eu droit parce que les liens avec l'Europe, ils ont sauvé le vignoble européen avec le porte-greffe. Mmh. Bon, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais
c'est nos alliés.
C'est les alliés, exactement. Ils ont gagné le Judgment of Paris en 76. Et donc,
le Judgment of Paris ?
C'est le fait que des vins californiens à l'aveugle ont battu les grands Bordeaux.
C'est le concours.
C'était un concours, ouais, qui a été monté par Stephen Sperry à l'époque. Et donc, ils avaient accès à ces bouchons. Alors, Bruce Tyrrell, donc le premier domaine qu'on a goûté tout à l'heure, le Sémillon, m'a expliqué que dans les années 90, eux aussi, ils avaient des gros problèmes de bouchonnés. Et, bon, lui, il est moins diplomatique que moi, mais on va dire que leur fournisseur de bouchons n'était pas très honnête, dans le sens où ils savaient qu'il y avait des problèmes avec les bouchons, et l'Australie déjà et Nouvelle-Zélande ont recevé catégorie C, D, au lieu de catégorie A. Donc on n'était pas gâté par ce qui arrivait déjà dans le pays, et ensuite ils ont demandé aux bouchonniers de mettre des codes-barres sur les lots. Et alors... parfois, ils refusaient ces lots, ils les renvoyaient, mais comme ils étaient identifiés, ils pouvaient les tracer. Et il se trouve que ces lots arrivaient chez d'autres vignerons pour être utilisés. Or, il y avait des taux d'incidence assez élevés. Donc, les bouchonniers n'étaient pas très, très honnêtes là-dessus. Mais avant même d'en arriver là, dans les années 70, il y a eu des avancées majeures dans la conservation des fruits et notamment des fruits avec les boîtes en aluminium ou les boîtes en alu. Et c'est les vignerons eux-mêmes qui avaient du mal à trouver des bouchons et des bons bouchons de qualité. Ils ont demandé à Alcan, Pêchenet, de trouver une solution pour fermer les bouteilles avec une capsule.
Grand groupe producteur d'aluminium.
Oui. Et ils ont trouvé dans les années 70, donc c'était 72, les premiers vins étaient fermés en capsule à vis. Donc moi, j'ai goûté des vins de cette époque-là, c'est dinguissime. Et qui ont préservé toutes les qualités d'un meilleur bouchon. Alors, quelles sont les qualités ? Alors, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y avait une résistance de consommateurs. Mais c'est à partir des années 90 où on avait ces problèmes de bouchonnet. On a retrouvé ces bouteilles fermées en cave. On les a regouttées. Waouh, c'est extraordinaire. Et donc, on a un centre à Adelaide qui est très poussé dans la science et dans la, c'est une sorte d'université du vin technique. Et ils ont fait énormément d'essais sur les différents types de bouchons. Et ils ont fait des études sur du sémillon avec différents types de fermeture, donc capsule à vis, synthétique, verre, bouchon liège, bouchon moitié liège, moitié plastique, bon, bref, tout. Et ils ont vu que sur la durée, à la fois au niveau organoleptique, au niveau de couleur, que les vins qui étaient les mieux préservés, c'était ceux avec capsule à vis ou verre, et ceux qui étaient les pires, c'était tout ce qui était plastique, synthétique, et le bouchon liège, il y avait trop, c'était trop aléatoire. C'est-à-dire que tu avais des superbes bouteilles qui avaient, où le bouchon a bien tenu son rôle, d'éviter de l'oxygène de rentrer dans la bouteille, et il y en avait d'autres où soit c'était teinté, soit il y avait micro-oxygénation. Et ça, c'est le gros problème du liège aujourd'hui, c'est que on ne sait pas si la bouteille va être, le bouchon est teinté par le TCA, trichloranisole, ou si c'est le micro-oxygénation. Pas la micro-oxygénation, non, l'oxygénation aléatoire qui va affecter la bouteille. C'est pourquoi quand vous ouvrez 12 bouteilles d'un vin fermé avec bouchon liège, vous allez avoir 12 bouteilles différentes. Il n'y en a pas une qui va se ressembler. Et si, ça va se ressembler, mais ça ne va pas être pareil.
Plus de variantes avec le bouchon de liège.
Beaucoup plus de variations. Okay. Avec la capsule à vis, tous les vins ont vieilli la même manière, la même progression. Donc, vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir des vins différents. Alors, sur le vieillissement, parce qu'il y a une chose que les gens... il y a deux, trois choses. Déjà, avec le bouchon de liège, c'est un énorme sujet. Donc, j'essaie d'aller vite. Sur le liège, et il ne faut pas oublier que c'est une matière poreuse et que chaque bouchon de liège va avoir une porosité différente. Donc, il va emmagasiner un petit peu d'air dans le bouchon. Et au moment de la mise en bouteille, cet air va être injecté dans la bouteille. Or, les bouteilles sont remplies jusqu'à un certain niveau. On va mettre la petite dose de SO2 pour bien protéger le vin. Et ensuite, on va insérer le bouchon. Sauf que le bouchon, avec cette variabilité d'oxygène, va altérer la protection de soufre. Ce qui va faire qu'on va avoir cette petite différence. N'oublie pas que Pasteur a dit que le pire ennemi du vin, c'est de l'oxygène. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait une micro-oxygénation ou trop d'oxygène qui va rentrer à travers le bouchon de liège. La micro-oxygénation d'un vin se fait avec la cavité, avec l'air qu'il y a entre le bas du bouchon et le haut du vin. Il y a toujours un espace. Quand on retourne la bouteille, on voit qu'il y a la bulle qui remonte. C'est exactement pareil avec une capsule à vis. On va avoir un volume d'air entre le haut de la capsule et le haut du vin. Et c'est dans... Le principal vieillissement d'un vin se fait dans cet air-là.
Le bouchon n'y est pour rien. Au contraire, si le bouchon est hermétique, tant mieux.
Pourquoi on cire les bouteilles?
Pour le rendre plus hermétique.
Voilà. Merci. Donc déjà là-dessus, et on a des exemples de vin en capsule à vis qui vieillit très très bien. 20, 30, 40 ans. Le grand déclic en Australie, pour revenir à l'Australie, c'est en 2000... Les producteurs de Clare Valley Riesling, il y avait 20 producteurs qui étaient complètement convaincus par la capsule à vis et qui ont tous mis leur 2020 en capsule. Et c'était vraiment le démarrage et on n'a pas arrêté depuis. 4 ans plus tard, tu avais les Néo-Zélandais avec Sauvignon Blanc et qui ont suivi. Et c'est quand les grands domaines ont décidé de basculer à la capsule à vis, que ça a vraiment fait en sorte que tout le monde suivait. 2004, je me souviens, on distribuait Cloudy Bay. On avait une partie en bouchon liège et une partie en capsule à vis. Et dès que c'est passé en capsule à vis, le reste de la Nouvelle-Zélande s'est mis. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Ce n'est plus un sujet. C'est même difficile de trouver, parfois, un tire-bouchon chez les gens ou dans les restaurants.
Merci beaucoup Gaëtan. On va se retrouver, alors nous dans quelques minutes et les auditeurs peut-être dans quelques jours pour la deuxième partie de cet entretien. Je rappelle les vins qu'on a bu. Le premier était du domaine, alors je vais le prononcer à la française, comme ça nos auditeurs comprendront mieux que ton accent parfait. Non, je rigole. C'est le domaine Tyrells ou Tyrells, si je le dis à la lecture franco-française. HVD Vineyard, c'est la vallée Hunter, la Hunter Valley, et c'est un 100% sémillon.
2017.
Et le deuxième vin qu'on a bu, c'est du domaine Rockford. Rod and Spur, ça, c'est le nom de la cuvée. 2018, cette fois, on est sur un assemblage de Syrah et de Cabernet. Et on est dans la Barossa Valley, donc une des autres grandes régions viticoles de l'Australie. On se retrouve tout de suite pour parler là de l'actualité, qu'est-ce qui anime le monde du vin en Australie aujourd'hui, et puis peut-être aussi toi, ton ressenti par rapport à l'accueil en France, puisque c'est ton métier, de ces vins australiens. La société dans laquelle tu... le nom de ta société, rappelle-nous.
C'est South World Wines, donc les vins de l'hémisphère sud. Donc, et on a également un petit site marchand qui s'appelle comptoirdesvinsd'ailleurs.fr où vous pouvez trouver toute notre sélection.
Merci Gaëtan. À très vite. Merci Valérie.
Merci.
Et merci Patrice.
Merci.
À très bientôt. Ciao.